France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Tout est à refaire à Mayotte, à nouveau sous les eaux, en cause le passage de la tempête tropicale qui a touché l'archipel ce week-end, quelques semaines après le cyclone Chido. Nous sommes sur place, nous serons également aux États-Unis à Los Angeles, avec des habitants qui, face aux incendies, refusent d'évacuer. À suivre encore, pas de reprise des protestations agricoles en France dans les prochains jours. Bonjour Marion Ferrer.
Bonjour.
Les syndicats agricoles reçus depuis ce matin à Matignon.
Et les syndicats qui temporisent, pas de nouvelles manifestations pour l'instant, mais les syndicats agricoles ne veulent plus attendre, ils veulent du concret, l'application des mesures promises depuis un an et avec en ligne de mire le salon de l'agriculture.
Et nous les écouterons grâce à vous dans les prochaines minutes. Le Premier ministre François Bayrou qui cherche toujours la clé pour éviter la censure, suspendre la réforme des retraites, demande le Parti Socialiste, nous verrons si c'est possible. Nous irons dans les pharmacies, c'est l'affluence pour se faire vacciner contre la grippe, tout cela alors que les températures baissent nettement cette semaine ici en Dordogne.
Quand on est passé de 11 degrés à 8h du soir et à 10h du soir, on était à moins 3, donc ça fait 14 degrés de chute là.
Prévision météo complète dans une demi-heure. À partir de 13h30, comment les nouvelles technologies révolutionnent notre santé? De nouveaux objets connectés viennent d'être présentés au salon de Las Vegas. On en parle avec nos invités qui en reviennent et avec vous, 01 45 24 7000. Notamment si vous avez déjà recours à ces objets connectés ou à ces applications, venez nous en parler. 13h45, notre feuilleton dans la vie d'un grand sportif français installé à l'étranger.
Il n'y a pas beaucoup de très bons championnats. On va dire que la Turquie est quand même l'un des top 3 en Europe. Donc c'était important pour moi d'évoluer dans un championnat avec un haut niveau quand même.
Nous sommes avec le basketteur de l'équipe de France, Vincent Poirier, installé à Istanbul. 13h50, c'est la France. Mathieu Avanzi, notre linguiste, et les mots de la mer à l'occasion de l'épilogue du Vendée Globe. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson d'Ike Angarn, Jacques Brel et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Avant de nous rendre à Mayotte, le Vendée Globe 2024 qui vit son dénouement. Le leader Charlie Dalin est actuellement au large des côtes bretonnes. Il est attendu la nuit prochaine en Vendée pour la fin de son tour du monde à la voile en un temps qui sera, on le sait déjà, record, un peu plus de 64 jours. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Jérôme, vous attendez le vainqueur au Sable d'Olonne et Charlie Dalin, on peut le dire, a toutes les cartes en main pour s'imposer.
Oui, ce sont vraiment les derniers moments en mer pour lui. On va dire une quinzaine d'heures encore, le Normand est attendu à l'entrée du fameux chenal des Sables d'Olonne demain en fin de nuit. L'organisation du Vendée Globe et l'équipe de Dalin s'accordent sur un passage de ligne vers 5h du matin. Actuellement, vous l'avez dit, son monocoque évolue au sud de la pointe bretonne dans un vent mollasson, soufflant d'est en ouest, donc très froid, mais sous le soleil. Il a réussi en plus à creuser l'écart sur son poursuivant, Johan Richom, qui a eu un nouveau problème de voile ce matin. C'est donc, oui, un succès logique dans ce tour du monde qui se dessine. Charlie Dalin qui a été en tête 80% du temps. Il a passé le premier, les trois caps symboliques, Bonne Espérance, le Win et le Horn. Il a résisté à la pugnacité de son dauphin, le très attendu Johan Richom. Disons-le aussi, cette victoire va faire plaisir à beaucoup de monde dans le milieu de la voile et bien au-delà. Lui qui il y a 4 ans avait déjà franchi en tête la ligne d'arrivée, mais au petit jeu des bonifications après le sauvetage de Kevin Escoffier, il avait été rétrogradé en deuxième position derrière Yannick Bestaven.
Bon, il lui faut quand même être vigilant, hein, Jérôme, les dernières heures sont toujours pleines de pièges.
Oui, on ne va pas lui porter la poisse. Attention, oui, dans cette ultime ligne droite. Et peut-être vous rappelez-vous, je suis sûr que oui, Jérôme, en 2021, quand le skipper allemand Boris Herrmann, promis au podium, mais écrasé de fatigue, avait percuté un bateau de pêche au large des Sables d'Olonne. La fatigue, justement, la lucidité après plus de 2 mois en mer, c'est l'un des enjeux de ces dernières heures. Ne pas faire la bêtise qui peut tout ruiner, mais à n'en pas douter, Dalin en a encore sous le pied hein, pour boucler la boucle en beauté. Après, vous l'avez dit, moins de 65 jours de course. Record du Vendée Globe qui datait de 2016, 74 jours, sera donc pulvérisé.
Aux alentours de 5h donc, demain matin, dernière estimation d'arrivée. Merci Jérôme Val en direct des Sables d'Olonne avec les moyens techniques d'Olivia Branger et on espère retrouver très vite notre navigatrice Violette d'Orange qui elle accumule en ce moment les pépins. Elle est dans le sud de l'Atlantique au large de l'Argentine et elle a un peu de mal à nous envoyer de ses nouvelles. Les habitants de Mayotte vont rester confinés au moins jusqu'à 15h. Décision des autorités après le passage de la tempête tropicale Dikeledi, tempête qui a provoqué d'importantes inondations dans un archipel déjà éprouvé, c'est vrai, par le passage du cyclone Chido. L'alerte rouge reste en vigueur, notamment pour assurer la sécurité des habitants. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour, et accessoirement, il est 15h ici en fait, donc c'est levé.
Ah voilà, c'est levé, les habitants de Mayotte peuvent donc sortir de chez eux et circuler. Vous-même, Béatrice, vous avez pu vous rendre à Ouangani, sur les hauteurs de l'île. Les pluies ont été extrêmement fortes ces dernières heures.
Oui, je vous emmène, Jérôme, boulevard de l'Hôtel de Ville à Ouangani, en ce lendemain d'intempéries. Imla regarde les femmes s'affairer dans la petite épicerie du croisement.
Au début, je croyais que c'était rien, parce que mon père, il avait dit que c'était juste une tempête. Après, ça montait, j'ai dit, oh là là, c'est du n'importe quoi.
Oui, parce que l'eau a débordé de la ravine toute proche et déferlé chez les riverains.
Il faut nettoyer ça à la rivière.
Ce matin, séquence nettoyage, la boue a tout envahi, la maison, le commerce avec de la marchandise perdue. Léa, 18 ans, aide sa grand-mère et ses tantes, lave-pont en main.
Avec les parages, des arbres sont tombés après chute d'eau, l'eau a commencé à s'accumuler là-bas. Puis après, en haut là-bas aussi, vers le cimetière, l'eau a commencé à monter aussi. Ben, tout accumulé, ça a fait que l'eau a remonté et ça a pris toute la route, depuis la route du cimetière là-bas jusqu'à ici en bas.
On voit les traces, non ?
On voit les traces là-bas.
40 cm d'une eau boueuse et puissante dans la rue qui porte encore les stigmates ce matin. Carton mouillé, palmes arrachées, gravats, noix de coco.
Ça reste impressionnant, mais c'est la nature, on n'y fait rien.
Heureusement, le quartier est solidaire. Il espère ne pas avoir à ressortir les balais et les raclettes en fin de journée. Mais normalement, ça devrait aller, Jérôme.
Merci Béatrice Duguet pour ces nouvelles de Mayotte. Vous étiez en direct avec les moyens techniques de Fabien Gosset. Là, c'est un couvre-feu qui est en vigueur à Los Angeles. Interdiction de sortir de chez soi entre 18h et 6h du matin pour éviter les pillages dans les secteurs de Pacific Palisade et d'Altadena, les secteurs les plus ravagés par les incendies qui continuent de faire rage. Au moins 24 morts et 12 000 bâtiments endommagés et détruits. Ça, c'est le dernier bilan. Les vents se sont calmés, mais ils vont malheureusement souffler à nouveau très fort à partir de demain. Alors, les milliers de personnes évacuées tentent de revenir chez elles pour récupérer, même temporairement, des affaires et constater les dégâts. Mais notre envoyée spéciale sur place, Sandrine Etoa-Andegue, elle a rencontré un jeune homme âgé d'une trentaine d'années qui a refusé d'évacuer pour sauver ses biens.
Dans une rue ombragée d'Altadena, Robert déblaie tranquillement devant sa maison intacte en racontant son face-à-face avec le feu mercredi dernier.
J'ai eu de la chance d'avoir une petite arrivée d'eau. C'est ce qui a tout stoppé. J'ai refusé de partir pour sauver ma maison. C'est fait. Maintenant, je nettoie et je monte la garde jusqu'à ce que tout le monde rentre.
Juste en face, voiture, maison, restaurant, tout est calciné. Un incendie d'une rapidité et d'une intensité inédite.
Regardez les montagnes derrière vous. On a d'abord vu une petite lueur et elle a grossi encore et encore et encore. Au lieu d'aller vers l'ouest, elle est descendue vers nous. Toutes ces maisons ont brûlé en 20 minutes.
Il tient à préciser.
Impossible d'avoir de l'eau de la borne d'incendie. Oui, celle juste en face. Il n'y en avait pas. J'ai vu les pompiers essayer de remplir leurs citernes, abandonner et passer à la suivante.
Autre problème, selon lui,
la mairie a baissé le budget des pompiers. Voilà le résultat.
Ce qui l'inquiète à long terme, ce sont les feux de forêt, toujours plus violents en Californie, et à court terme, l'air vicié à cause des fumées toxiques qu'il respire en ce moment.
Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
On entend l'inquiétude de cet Américain rencontré par Sandrine Etoa-Andegue, la toxicité de ces fumées. Jusqu'à quel point sont-elles toxiques d'ailleurs ces fumées ?
Mais écoutez, les feux de forêt dégagent des particules fines dangereuses pour la santé qui pénètrent très loin dans le système respiratoire. Et en plus de la végétation à Los Angeles, ce sont des maisons, des voitures, du mobilier, du plastique qui brûlent. Bref, tout un cocktail de polluants, explique Pierre Pernaud, ingénieur chez Air Paris, l'organisme qui surveille la qualité de l'air en Île-de-France.
Ces fumées, elles sont dangereuses au sens où elles comportent des concentrations très importantes, notamment en particules fines, mais aussi en monoxyde de carbone. Dans ces fumées, vous avez aussi d'autres polluants comme des dioxines, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des composés organiques volatils aussi, qui peuvent avoir un effet sur la santé important. Par exemple, des hydrocarbures aromatiques polycycliques sont pour la plupart cancérigènes.
Et on n'est pas dans une forêt à des centaines de kilomètres de toute habitation, mais bien à Los Angeles, densément peuplée, beaucoup d'habitants sont donc exposés.
Ces fumées se déplacent, Sandy, jusqu'où peuvent-elles aller ?
Alors ces fumées visibles de l'espace sont suivies de près par les satellites du programme européen Copernicus. Les panaches ne bougent pas beaucoup, explique Laurence Rouil, directrice des services de la surveillance de la composition atmosphérique.
ils restent très localisés. Du fait de l'orientation des vents, ils vont se propager plutôt vers l'océan, hein, mais en restant à proximité des côtes américaines. Ces incendies sont en effet très impressionnants, mais pas suffisamment intenses pour créer des panaches qui feraient le tour du globe et même atteindraient l'Asie.
Rien à voir donc avec les fumées des feux de forêt gigantesques du Canada l'été 2023 qui étaient arrivés jusqu'en Europe.
Merci Sandy Dauphin. Vendredi dernier, le comté de Los Angeles a déclaré l'état d'urgence sanitaire en raison de la fumée. Rien à voir avec des feux de forêt, mais un incendie a fait 3 morts la nuit dernière dans le Pas-de-Calais, commune de Vingle. Une femme de 37 ans et ses deux filles âgées de 9 et 16 ans ont péri dans l'incendie de leur maison. Les deux fils, eux, ont pu être sauvés. Le père de famille lui était déjà parti au travail. Au moment du sinistre, une enquête est ouverte. Le risque sanitaire en ce moment en France, c'est l'épidémie de grippe. Une centaine de services d'urgence ont déclenché leur plan blanc pour faire face à l'afflux de malades. Et si le début de la campagne de vaccination n'a pas fait recette, on constate depuis quelques jours un regain d'intérêt, même si les doses de vaccins à disposition s'amenuisent. C'est le cas à Nancy, où s'est rendue Isabelle Baudrier.
La manche retroussée, Frédéric attend la piqûre du pharmacien.
Allez, je pique.
Ça prend 2 secondes.
Ça va ?
Oui.
Mais dans les fêtes, Frédéric ne sera immunisé que dans une dizaine de jours. En attendant, le Nancéien de 46 ans promet de faire attention et de respecter les gestes barrières, étant lui-même une personne à risque.
Souffrant d'une maladie chronique, la CPAM m'adresse tous les ans à un bon pour vaccination. Maintenant, c'est un peu tard, c'est sûr. D'habitude, je le fais plutôt fin novembre, début décembre, parce que j'ai eu quelques petits soucis suite à une opération de la cheville, mais vu le pic qui commence à arriver, et puis ma reprise en présentiel de travail, j'ai souhaité venir faire le vaccin.
Le gérant de la pharmacie, Bruno Petit-Collin, observe un regain d'intérêt pour la vaccination contre la grippe ces derniers temps.
Effectivement, depuis une quinzaine de jours, on a une deuxième vague de vaccination, plutôt des jeunes adultes ou des parents, dû à l'épidémie qui est très importante là.
Le flacon coûte un peu moins de 13 euros. Les stocks de Bruno Petit-Collin ont bien baissé, son grossiste est en rupture.
C'est des vaccins où on doit précommander pour l'année d'après. Donc s'il y a besoin de plus de vaccins que ce qui a été précommandé, ils ont un petit peu plus, mais pas beaucoup, donc ça tombe vite en rupture. Pour tout vous dire, sur à peu près 900 doses commandées, il me reste une vingtaine de doses.
L'an dernier, le pharmacien s'était retrouvé avec une centaine de vaccins invendus.
Reportage de nos confrères d'ici Sud-Lorraine. Les saisies de drogue en France l'an dernier ont atteint des records. Sur les 11 premiers mois de l'année 2024, 47 tonnes de cocaïne ont été saisies contre 23 tonnes en 2023, annonce faite il y a quelques minutes par le ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau, qui est en visite au Havre et précisément au port du Havre dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. Le nouveau ministre des Transports, Philippe Tabarot, lui est visé par une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts. Cela fait suite à un signalement de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, signalement effectué il y a 3 ans et demi. Il était alors sénateur Les Républicains des Alpes-Maritimes. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Philippe Tabarot, présumé innocent, bien évidemment. Ce sont ses fonctions multiples qui interpellent la justice.
Oui, des casquettes enfilées à la mairie du Canet dans les Alpes-Maritimes, ville dirigée plus de 10 ans par sa sœur, la médiatique députée LR Michèle Tabarot. Philippe Tabarot y est entre 2018 et 2020, à la fois chargé de communication pour 1200 euros net par mois en moyenne, mais aussi directeur d'un groupement pour le développement touristique et culturel de la ville, près de 6 900 euros par mois. Puis chargé de mission de ce groupement, 4 500 euros de salaire mensuel net, et ce, tout en siégeant au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, revenu moyen 3 300 euros par mois. Ces chiffres, on peut les trouver sur le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. C'est elle qui a transmis le signalement au parquet national financier, conduisant à l'ouverture d'une enquête préliminaire, toujours en cours depuis 3 ans et demi. Donc, vous le disiez, Jérôme, les enquêteurs qui ont mené fin 2020 des perquisitions au domicile de Philippe Tabarot et à la mairie du Canet, les enquêteurs cherchent à déterminer s'ils pouvaient cumuler toutes ces casquettes et les revenus qui vont avec et si ces postes correspondaient bien à une activité réelle.
Delphine Evenou pour ses précisions. L'avenir du ministre et de ses collègues qui se joue en ce moment dans les négociations qui se poursuivent entre le gouvernement et les forces politiques. L'objectif, c'est de s'assurer que la gauche ne tentera pas de renverser l'équipe de François Bayrou. Tout cela sans perdre le soutien de la droite. François Bayrou qui prononcera demain après-midi sa déclaration de politique générale. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Marie, où en sont les discussions avec la gauche ?
Eh bien, tractation toujours en cours, échange prévu ce soir entre Olivier Faure et François Bayrou, avec toujours ce même point d'interrogation. Le Premier ministre va-t-il, oui ou non, geler la réforme des retraites pour une durée de 6 mois ? Oui, on s'y dirige, croit savoir l'un de ses proches. Laisser du temps pour que tout le monde se parle et trouve une alternative. Un élu socialiste reste plus prudent. C'est à la fin de la foire qu'on compte. Mais il est vrai, dit-il, c'est la première fois en 7 ans que l'exécutif accepte de négocier avec nous. Reste que c'est François Bayrou qui tient la plume. D'ici demain, il va chercher ses mots, tenter d'éviter ceux qui fâchent, notamment suspension de la réforme, qui pourrait froisser une partie du bloc central, Emmanuel Macron lui-même et la droite.
Alors évidemment, à droite, vous en parlez Marie, on goûte peu ce rapprochement et plusieurs de ses responsables sont montés au créneau ce matin.
Oui, offensive coordonnée entre les têtes de pont LR, Laurent Wauquiez hier dans Le Parisien. Suspendre la réforme des retraites serait irresponsable, dit-il. La veille, Gérard Larcher lançait un appel, ni abrogation ni suspension. Et ce matin sur France Inter, la patronne de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui poussait la menace encore plus loin en cas de gel de la réforme.
Moi je pense que dans ces conditions, surtout, la droite ne peut plus participer à ce gouvernement. Parce que c'est un gouvernement qui irait contre les valeurs qu'elle porte, les valeurs de responsabilité.
Mais Valérie Pécresse n'est pas Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur n'a pour l'instant jamais dit qu'il claquerait la porte en cas de suspension de la réforme. Mais le chemin de crête reste le même pour François Bayrou. Comment arracher un pacte de non-censure avec la gauche sans perdre le soutien de la droite ? Où se trouve l'équilibre entre stabilité politique et maîtrise du déficit ?
Alors, le mot du moment, on l'a compris, c'est donc suspension. On ne parle pas là d'éclairage ou de luminaire, mais ça renvoie plutôt à l'idée de mettre quelque chose en pause. En l'occurrence, la réforme des retraites que l'ancienne première ministre Elisabeth Borne avait fait adopter et qui est entrée en vigueur en septembre 2023. Je rappelle qu'elle porte l'âge légal de départ à 64 ans. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Comment peut-on faire pour suspendre l'application d'une réforme déjà en vigueur ?
Une vraie question et vrai casse-tête, Jérôme, dans un schéma somme toute inédit, on va dire. En fait, l'idée serait quelque part de tout mettre en stand-by, hein, de stopper la machine du travailler plus longtemps, sachant que si vous vouliez partir à la retraite jusqu'ici, aujourd'hui, pour les premiers impactés, il fallait au minimum avoir attendu 62 ans et 6 mois et avoir travaillé 169 trimestres, c'est-à-dire un peu plus de 42 ans. Et qu'avec la réforme, l'âge de départ augmente progressivement par palier de 3 mois. Par exemple, les Français qui ont eu 62 ans à partir du 1er janvier devront partir à 62 ans et 9 mois, puis ce sera 63 ans, puis 63 ans et 3 mois, et ce jusqu'au fameux 64 ans, vous voyez. Ce serait donc ce curseur qu'on arrêterait de faire bouger, qu'on gèlerait en quelque sorte le temps d'une négociation qui puisse contenter tout le monde.
On sait combien cela pourrait coûter ?
C'est l'autre pan du sujet, hein, en effet, qui fait beaucoup parler forcément. Les socialistes estiment cette suspension, son coût, à 2 voire 3 milliards. La CNAV, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, avance elle le chiffre de 3,4 milliards d'euros. Selon les syndicats, la vérité doit se trouver quelque part au milieu.
Merci Maxime Debs. Avant de poursuivre sur cette semaine chargée pour le gouvernement avec les revendications des agriculteurs à traiter, ils étaient à Matignon ce matin, arrêtons-nous sur l'une des déclarations politiques du week-end qui est passée un peu inaperçue. Elle est signée Marine Le Pen, la leader du Rassemblement National qui, au lendemain des obsèques de son père samedi en Bretagne, a lâché cette phrase comme un regret hier dans une interview accordée au journal du dimanche, je la cite, « Je ne me pardonnerai jamais la décision d'exclure mon père du parti parce que je sais que cela lui a causé une immense douleur ». Fin de citation. Je rappelle que Marine Le Pen avait pris cette décision en 2015. Son père avait alors estimé que l'occupation allemande n'avait pas été particulièrement inhumaine et il avait promis au chanteur Patrick Bruel, je cite, « une fournée ». Maxence Lambrecq, on vous retrouve. Maxence, pourquoi ces regrets ? Qu'est-ce que ça signifie ?
Cela veut dire que le menhir devient déjà une statue, que Jean-Marie Le Pen est une figure à laquelle personne n'aura le droit de toucher au RN, puisque sa fille ne se pardonnera jamais son exclusion. Je sais que cela lui a causé une immense douleur. Jusqu'à la fin de mon existence, dit-elle, je me poserai toujours la question « est-ce que j'aurais pu faire autrement ?» Marine Le Pen parle d'une des décisions les plus difficiles de sa vie. J'ai considéré qu'il n'avait plus le droit de mettre en danger ce parti par provocation, orgueil ou je ne sais quoi. Dans sa bouche, on croira que papa, c'est la première fois qu'elle l'appelle ainsi en public, que papa n'a jamais subi la moindre condamnation. Sur 80 ans, je cite, il est inévitable d'avoir des sujets qui suscitent des polémiques. Nos confrères du JDD la laissent dérouler, remarquent eux-mêmes la clémence de la classe politique à l'égard de son père. Honnêtement, je ne pensais pas qu'ils en étaient est capable, se réjouit Marine Le Pen. J'ai été agréablement surprise et que ceux qui ont adopté ce comportement sachent que cela me touche et touche tous nos électeurs. Le diable de la République devient ainsi sous nos yeux une figure respectable. La réécriture de l'histoire commence avec son décès et cette interview.
Décryptage signé Maxence Lambrecq. Et on en vient donc au dossier agricole avec la réception ce matin, et ça se poursuit toute la journée à Matignon, des principaux syndicats. Vous êtes à Matignon, le siège du Premier ministre François Bayrou, Marion Ferrer. On vous retrouve. Les syndicats qui, en tout cas pour ceux qui ont été reçus ce matin, temporisent. Pas question de relancer un grand mouvement dans les prochains jours.
Non, et pas d'appel à la mobilisation dans l'immédiat, car les syndicats maintiennent la pression sur François Bayrou. La FNSEA et les jeunes agriculteurs parlent d'une course contre la montre, d'un besoin urgent de mesures concrètes sur la trésorerie, par exemple, sur la simplification des normes, nécessité aussi de faire enfin adopter la loi d'orientation agricole maintes fois reportée. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, fixe une date comme point d'étape, le 22 février prochain, inauguration du Salon de l'agriculture.
Donc le salon de l'agriculture, c'est le rendez-vous, c'est un rendez-vous d'étape. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que des réponses puissent être apportées, je l'ai dit, sur le plan des mesures d'urgence, sur le plan de la simplification. En 6 semaines, on peut sortir des décrets, on peut sortir des circulaires, et que enfin, sur le domaine de la loi, certaines soient passées. Peut-être tout ne sera pas fait en 6 semaines sur le plan de la loi, mais qu'en tous les cas, les dates et les rendez-vous soient pris au Sénat et à l'Assemblée nationale.
Du côté de la coordination rurale, connue pour ses actions coup de poing, on temporise également, mais seulement jusqu'à demain et le discours de politique générale.
Alors le délai, c'est demain. Nous espérons entendre les revendications ou celles du moins qui ne coûtent rien à l'État dans son discours de politique générale. Le salon viendra très vite, c'est sûr. Il n'y aura pas besoin d'appel à ce que les agriculteurs montent sur Paris, puisqu'ils pourront constater par eux-mêmes l'avancée ou la non-avancée des annonces de notre Premier ministre.
François Bayrou est donc sous pression. Il clôture actuellement cette matinée, journée de rencontre avec le 4e syndicat agricole, la Confédération paysanne, qui devrait sortir de Matignon d'ici quelques minutes.
Marion Ferrer avec les moyens techniques de Corentin Bailly.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est l'un des 3 Français actuellement détenus en Iran et on sait depuis ce matin qu'il s'appelle Olivier Grondeau. Il a été arrêté sur place en 2022 alors qu'il visitait le pays et il a donc décidé aujourd'hui de communiquer sur sa situation et donc de révéler son nom au grand public en espérant que cela accélère et facilite sa prochaine libération. Sa mère Thérèse était ce matin notre invitée.
Il y a eu en fait 3 temps. Il y a eu un premier temps qui était le temps diplomatique pendant lequel on a laissé faire. Rien ne s'est passé. Après, il y a eu le temps d'Olivier, de réflexion, de... Voilà. Et puis, maintenant, c'est le temps des médias. Et quand il est arrivé à 2 ans de détention, il a dit maintenant, on y va. Donc on a commencé à préparer, les amis ont préparé et nous aussi, petit à petit, on s'est préparé à ça. C'est dur et on aimerait bien voir la fin de ce cauchemar.
Le témoignage de Thérèse Grondeau ce matin au micro de Sonia De Villers. Bonjour Christian Chéneau.
Bonjour.
Les Italiens la semaine dernière et les Allemands ce matin ont obtenu 2 libérations de détenus en Iran, une journaliste et puis une militante allemande des droits de l'homme. Là, pour Olivier Grondeau, il s'agit d'un touriste. Il y a aussi Cécile Collère et Jacques Paris, 2 autres Français qui sont détenus sur place. Pourquoi ça bloque, Christian ?
Écoutez, comme le dit Olivier Grondeau dans son témoignage audio diffusé ce matin sur notre antenne, sa situation ainsi que celle de Cécile Collère et de son compagnon Jacques Paris sont au cœur d'un chantage politique exercé par Téhéran. Pour les Iraniens, les ressortissants occidentaux ou binationaux incarcérés sont autant de monnaies d'échange, des cartes dans le jeu diplomatique. Ensuite, il est toujours compliqué de lire l'agenda politique iranien, souvent obscur. Le pouvoir de la République islamique a plusieurs têtes qui s'opposent parfois, ce qui renforce l'opacité des décisions dans ce type de dossier, sans parler de l'inertie et de la complexité de la bureaucratie iranienne. Enfin, entre Paris et Téhéran, les griefs sont nombreux. Emmanuel Macron a rappelé récemment que l'Iran constituait le principal défi stratégique et sécuritaire au Moyen-Orient. Allusion très claire au programme nucléaire iranien qui approche du point de non-retour selon lui, d'où une nouvelle posture du Quai d'Orsay plus dure qui lie ce dossier et celle des sanctions à la libération des 3 ressortissants français emprisonnés en Iran.
Merci Christian Chéneau. Ils ne sont qu'une goutte d'eau quand on les compare aux centaines de milliers de soldats russes et ukrainiens qui sont engagés dans la guerre en Ukraine. 10 000 soldats nord-coréens combattraient actuellement aux côtés des Russes sur le front ukrainien, mais ils font beaucoup parler d'eux. Il faut dire que ce sont surtout les Ukrainiens et les Sud-Coréens qui en parlent. 300 soldats nord-coréens ont été tués sur les milliers qui ont été déployés. Ça, c'est un député sud-coréen qui affirme cela ce matin, citant les services de renseignement de Séoul. Et puis, bonjour Nicolas Teilhard.
Bonjour.
Il y a ces images de soldats nord-coréens qui ont été diffusées par les Ukrainiens ces dernières heures. Les Nord-Coréens au cœur d'une intense bataille de communication.
Oui, dans ce qui s'apparente à une opération de propagande, Volodymyr Zelensky lui-même a relayé sur ses réseaux sociaux ces images de soldats, ce qui constitue une violation de la Convention de Genève. S'il s'agit bien de prisonniers de guerre présentés comme des Nord-Coréens capturés en territoire russe dans la région de Koursk, les deux hommes sont filmés blessés, chacun sur un lit, sans que l'on ne puisse vraiment distinguer s'ils se trouvent dans un hôpital. Le premier est allongé sous une couverture, la main largement strappée, l'autre la mâchoire bandée, la lèvre encore saignante, et par de simples signes de tête, ils répondent à un agent qui n'apparaît pas sur les images et dont la voix a été modifiée. Enregistrement où ils assurent qu'ils ne savent pas où ils sont, encore moins qu'ils combattaient en Ukraine, pensant participer, disent-ils, à un entraînement. Impossible de vérifier l'identité de ces prisonniers, ni de connaître les conditions dans lesquelles ils s'expriment, mais en diffusant ces images, l'Ukraine envoie des messages pour corroborer la présence nord-coréenne, que ni Moscou ni Pyongyang n'ont reconnu jusqu'ici, appuyer le caractère mondialisé du conflit, et puis souligner la menace que représente la participation au combat d'une puissance hostile aux portes de l'Europe.
Merci Nicolas Teilhard pour ces explications. Et puis on a appris ce matin la disparition d'un photographe qui a rendu une marque de vêtements célèbre à travers le monde, une marque célèbre parfois plus pour ses images, pour cette campagne de publicité, que pour ses vêtements. C'est le photographe italien Oliviero Toscani. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Campagne provocatrice, c'est vrai, pour la marque italienne Benetton, et Oliviero Toscani est mort à l'âge de 82 ans.
Oui, il n'y avait pas que Benetton dans sa vie. Figurez-vous que son premier scoop, c'était à 14 ans. Il accompagnait son père photographe lors du transfert du corps de Mussolini dans sa commune natale. Et sa photo de la veuve du Duce avait fini sur le Corriere della Sera. Mais c'est effectivement 30 ans après, avec la pub, que la réputation d'Oliviero Toscani devient mondiale. Écoutez, Nicolas Balario, il est collaborateur historique du photographe.
Il a été le premier à comprendre que la publicité pouvait être un moyen de communication pour parler des problèmes du monde.
Alors, photo de baiser sur la bouche entre une bonne sœur et un curé, entre Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou, des corps de toutes les couleurs, une chaise électrique noire et son câble blanc, ou encore les lettres HIV violettes sur une paire de fesses, slogan toujours le même, United Colors of Benetton.
Beaucoup lui reprochaient d'utiliser des tragédies pour vendre des vêtements, mais il a fait le contraire. Il a utilisé l'argent de l'industrie de la mode pour parler de ces sujets.
Toscani photographie aussi nu un mannequin anorexique, et puis il signe l'affiche du film Amen de Costa Gavras sur les ambiguïtés du pape Pie XII pendant la guerre.
La croix catholique devenait une croix gammée. Il avait mis l'Église de France très en colère.
Les stars, en revanche, l'aimaient bien. De John Lennon à Monica Bellucci, des dizaines sont passées devant son objectif.
Voilà, Benetton ou Benetton, selon du côté des Alpes où vous vous trouvez. Merci Bruno Duvic. En direct de Rome pour Inter, 13h28. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas, puis à 13h30, ces innovations qui vont nous aider à vivre en bonne santé. Elles viennent d'être présentées au Salon des Nouvelles Technologies de Las Vegas. Vraie avancée ou gadget, on en parle avec notre journaliste Julien Baldacchino qui en revient, et avec Eric Carrel qui est le patron de l'entreprise française WeThings, qui a présenté notamment un miroir connecté. Il va nous en parler. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton dans le quotidien du basketteur français Vincent Poirier. Il est installé à Istanbul, il joue dans l'un des meilleurs clubs d'Europe et il nous a ouvert les portes. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Mathieu Avanzi, notre linguiste, spécialiste du français de nos régions, et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Mathieu, les premiers skippers du Vendée Globe sont en train d'arriver et cela vous inspire?
C'est ça, si vous n'avez pas le pied marin, pas de soucis, on vous embarque pour découvrir le lexique des amoureux de la mer.
Et cela va changer selon les rivages et selon les régions. Et avec vous Frédéric, un chanteur.
Il a chanté Bruxelles, il a chanté Mireille ou encore Sacré Géranium. Il s'agit du néerlandais Dick Angarn qui sera en concert mercredi à Paris. Et avec lui, c'est la voix de Jacques Brel que nous écouterons. Brel, plus théâtral que jamais dans la comédie musicale L'Homme de la Mancha.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Sur France 5, à l'occasion des 50 ans de la loi dépénalisant l'avortement, France Télévisions rend hommage au combat de Simone Veil.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Des femmes témoignent dans un documentaire inédit. Il suffit d'écouter les femmes, demain à 21h05, sur France 5.
Au moment où s'ouvre ce livre, je romps une promesse. Lorsque je l'ai faite, c'est idiot, j'étais sûre que je la tiendrais. Enfin, idiot, je ne sais pas. La moindre des choses quand on fait une promesse. N'est-ce pas d'y croire ? Claire est accusée d'avoir frappé son ex-mari. Comment en est-elle arrivée là ? Comment une histoire d'amour peut-elle virer au drame au fil des mensonges ? Après le succès de Fille, Camille Laurence nous invite à célébrer l'amour au-delà des promesses trahies. Ta promesse, le nouveau roman haletant de Camille Laurence, aux éditions Gallimard.
France Inter, partenaire de Mémoire d'un escargot d'Adam Elliott, cristal du meilleur film d'animation d'Annecy. La vie heureuse et marginale de Grace, collectionneuse d'escargots, vole en éclats à la mort de son père quand on la sépare de son frère jumeau.
One day, Child Services came to take us away.
Sa rencontre avec Pinky, octogénaire excentrique, va lui apprendre à aimer la vie et à sortir de sa coquille.
Life isn't about looking backwards, Gracie. It's about living forwards.
Mémoire d'un escargot au cinéma le 15 janvier, un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Du soleil presque pour tout le monde aujourd'hui.
Oui, c'est un après-midi très largement ensoleillé, des côtes de la Manche à la façade atlantique jusqu'au Grand Est, au Jura, aux Alpes et à la Méditerranée. Attention tout de même au risque d'avalanche, encore fort de 4 sur 5 sur la Maurienne, la Haute-Maurienne et la Haute-Tarentaise. Quelques poches de nuages bas pourront tarder à s'effacer, voire rester tenaces et maintenir un ciel chargé. On trouvera ces grisailles récalcitrantes dans le Tarn, le Pas-de-Calais, en Haute-Loire ou encore dans les plaines entre le Dauphiné et le Genevois. Le ciel sera aussi plus partagé sur la Haute-Corse avec même un peu de vent attendu, notamment sur les caps du Nord et le cap du Sud. Malgré ce soleil radieux, les maximales perdent quelques degrés. Les températures sont d'ailleurs assez fraîches pour la saison, 0 à 4 degrés pour cet après-midi, avec 9 à 15 degrés autour de la Méditerranée. Et puis la baisse des températures va se poursuivre la nuit prochaine.
Il va faire plus froid.
Oui, des gelées quasiment partout, des températures qui pourront descendre localement jusqu'à moins 8, voire moins 10 degrés en plaine, entre le Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes.
Moins 10 donc localement la nuit prochaine. Merci Sébastien Léas, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Épidémie de grippe, maladies cardiovasculaires, diabète, troubles du sommeil. Et si les nouvelles technologies nous aidaient à guérir ou à prévenir ces maladies chroniques et ces virus? Le dernier CES de Las Vegas, le salon de l'électronique qui vient de s'achever aux États-Unis, a confirmé que la santé était l'un des domaines dans lequel la technologie avait le plus progressé ces dernières années. Nous allons voir quels sont les outils désormais à notre disposition, quelles sont les tendances, mais aussi les questions, voire les réserves que soulèvent ces avancées avec nos deux invités. Bonjour Eric Carrel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur et président de la société Weavings. 10 millions d'utilisateurs à travers le monde et vous vous êtes fait connaître avec vos montres, vos balances ou encore vos tensiomètres connectés. Vous avez présenté lors de ce salon un miroir connecté. Vous allez nous en parler. Avec nous également Julien Baldacchino. Bonjour Julien.
Bonjour.
Du service culture et écran. Vous revenez vous aussi de Las Vegas, Julien. 01 45 24 7000 pour les appels, pour les questions des auditeurs de France Inter. Vous pouvez également passer via l'application France Inter. Eric Carrel, pour qu'on comprenne comment marchent vos produits, je voudrais m'appuyer sur l'une de vos expériences personnelles récentes. Votre épisode de grippe et le lien que vous avez fait à votre matelas connecté, puisque vous avez mis en place un matelas connecté. Je crois que vous dormez sur un matelas connecté. Vous avez pu être alerté par cette technologie ?
Oui, alors en fait c'est ce qu'on appelle un analyseur de sommeil qui se met sous le matelas et qui mesure en fait continuellement notre rythme cardiaque, rythme respiratoire, qui détecte aussi les épisodes d'apnée. Et donc je regarde tous les matins mon rythme cardiaque moyen et la variabilité de mon rythme cardiaque qui sont des indicateurs de notre état de santé, d'état physique, état de repos.
Est-ce qu'il a changé pendant la nuit ?
Et il a changé pendant la nuit. J'avais un rythme cardiaque qui était beaucoup plus élevé un matin. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et puis, quelques heures après, j'ai senti que la grippe m'envahissait.
Alors, ça veut dire que ça permet d'être alerté finalement, mais là, ça veut dire que c'est trop tard. Enfin, à ce
là, effectivement, ça permet de savoir que, ouais, il faut faire attention. On peut faire attention aux autres, essayer de ne pas passer son virus à tous ses voisins. Mais effectivement, là, on ne peut plus rien. On est déjà infecté. Par contre, toutes ces mesures qu'on essaye de faire, effectivement, le but, c'est, notamment dans le cas des maladies chroniques, de pouvoir les détecter à une phase où elles sont encore réversibles. Et c'est un des grands enjeux de la santé de demain.
Vous avez un exemple ?
Alors, par exemple, le diabète. Sur le diabète, on a, en montant sur nos pèses personnes, on a des mesures de l'état de santé de notre système nerveux autonome qui se dégrade chez beaucoup de diabétiques. Et souvent, avant que les gens sachent qu'ils sont diabétiques, et si on le détecte très tôt, si on invite ces gens à faire attention à leur alimentation et à marcher, on va pouvoir leur éviter de rentrer dans un diabète profond qui, lui, ne sera plus réversible. Exemple très concret.
Oui, on va en parler à nouveau parce que c'est vrai que le diabète est au cœur de beaucoup d'innovations en la matière depuis quelques mois. Un dernier mot sur ce qu'on appelle ces matelas connectés. On ne change pas de matelas.
C'est juste comme un bout de tissu que vous mettez sous votre matelas. Et comme il est sous votre matelas, vous n'y allez jamais, donc il reste là pendant des années, et qui va continuellement mesurer vos nuits. Et nos nuits sont une source d'information de santé extraordinaire.
Julien Baldacchino, vous l'avez constaté à Las Vegas, la santé prend une place très importante dans ce salon.
Une place immense.
Immense.
Ce qu'on appelle la santé connectée était vraiment là cette année en particulier, mais c'est le cas depuis plusieurs années. Une des grandes tendance de ce CES à Las Vegas et puis de tous les autres salons de nouvelles technologies. Ce qui est intéressant, c'est qu'on la retrouve à la fois dans les grandes entreprises qui sont déjà bien implantées et dont certaines se développent aussi dans cette direction-là. Des entreprises comme Samsung, par exemple, ne font plus seulement des téléphones, des téléviseurs, mais aussi des bracelets et des équipements pour la santé. Et puis dans les petites start-up qui se lancent et qui ont des idées, qui ont des projets pour la santé. On le retrouve dans ces deux univers-là.
Vous avez présenté, Eric Carrel, un miroir connecté. Alors, Julien m'a expliqué, vous n'allez pas le mettre en vente après-demain.
Non, en fait, ce n'était
pas l'objectif.
En fait, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est qu'à travers les différentes mesures qui se font très simplement, comme dormir sur son matelas ou se peser régulièrement ou porter une montre, on arrive à avoir un certain nombre de données. Et quand on les rassemble dans ce qu'on appelle des scores, qui sont des indicateurs d'évolution dans un certain nombre de maladies, on arrive à vraiment accompagner les gens. On arrive à accompagner les gens en vie réelle, à la fois sur la motivation à changer les habitudes et en même temps sur les mettre en contact avec le corps médical au bon moment. Et ça, c'est clé pour la santé de demain. C'est vraiment cette révolution-là qui est en marche aujourd'hui. C'est dire, finalement, la santé nous a pris en charge quand on allait dans le système de santé. Et demain, ça ne sera plus possible. On ne pourra pas tous aller aux urgences quand il est trop tard. Il faudra être accompagné en avance de phase dans notre vie quotidienne.
Mais ça veut dire, par exemple, que dans le cadre du matelas connecté, attention, trouble du sommeil. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme indicateur
vous avez des indicateurs
qui passent à l'orange ou au rouge?
Vous avez des indicateurs qui vous disent là, j'ai bien récupéré ou j'ai pas encore récupéré, donc il faut que je fasse attention à me coucher à peu près à des heures
fatigue.
Correctes, etc. La fatigue. Donc ça se détecte notamment par rapport à la variabilité du rythme cardiaque. On a des indicateurs d'apnée. L'apnée, c'est une maladie qui touche énormément de gens. Et vous savez, toutes ces maladies, en fait, ces maladies chroniques, quand vous en avez une, vous en avez plusieurs. Donc à partir du moment où vous avez du diabète, vous avez de l'obésité, vous avez des risques cardiovasculaires, vous avez de l'apnée. Et donc pouvoir en détecter une, c'est très important pour dire, voilà, toi, personne, il faut maintenant que tu fasses attention et que tu ailles voir un peu le corps médical et que tu sois accompagné. Et ça, l'apnée en vie réelle, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant et c'est vraiment quelque chose qui aide énormément de gens. Nous, on a des retours absolument extraordinaires.
Jacques nous appelle de Bordeaux. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour.
Vous avez été médecin ?
Oui, j'ai été médecin jusqu'à l'âge de 75 ans. Enfin, j'y suis toujours. Hein. Maintenant, à 80 ans, je suis un peu à la retraite.
Nous vous écoutons, vous aviez une question ou un témoignage lié à votre expérience de médecin.
C'est un témoignage, j'ai écouté un petit peu ce que racontent vos invités sur les objets connectés. Moi, je voudrais dire simplement que la médecine, c'est quand même pas uniquement ça, c'est aussi une écoute énorme, une tout écoute importante, et des examens cliniques qui se font avec la main. C'est-à-dire que la médecine, c'est l'oreille et la main. Et je crois qu'on a perdu un petit peu cette notion actuellement, et que les médecins peut-être oublient un petit peu d'écouter les gens, de les palper, de les ausculter, de les percuter, etc. Et l'objet connecté, j'ai l'impression, rentre un petit peu, donc je vois pas très bien ce qu'il apporte de plus, puisqu'on a déjà, si on veut bien travailler, on a déjà ce qu'il faut pour faire un diagnostic, à condition de bien écouter et de bien examiner.
Merci Jacques pour cette question, pour ce témoignage. Éric Carrel, on a toujours besoin, au bout du compte, d'un médecin et de ses connaissances.
On est complètement d'accord, et je pense que je suis d'accord avec le médecin qui vient de s'exprimer. Ce qui est important, c'est de dire comment on optimise le temps du médecin. Aujourd'hui, le temps du médecin, il est insuffisant par rapport aux besoins. Il y a une telle explosion des maladies chroniques, il y a un tel besoin d'accompagnement. Nous, je pense qu'on peut aider à optimiser ce temps et à mettre le patient en relation avec le médecin au bon moment. Et au bon moment, ça veut dire suffisamment tôt. On peut économiser énormément dans le système de santé si on arrive à travailler cette prise de conscience pour chacun d'entre nous que là, il y a un virage et que c'est maintenant qu'il faut agir.
Question de Sophie sur l'application France Inter, Julien Baldacchino. Comment ne pas craindre une transmission d'informations aux assureurs? La confidentialité des données, on parle de données qui concernent notre santé, ce sont des données qui ont beaucoup de valeur. Est-ce que cette question-là, elle est au cœur des réflexions, y compris dans un salon comme celui de Las Vegas que vous avez couvert pour Inter?
Cette question-là, elle est clé, elle va même au-delà des questions de santé. Elle est présente dans les questions de domotique, c'est-à-dire tous les équipements de la maison, au-delà des balances, au-delà des matelas, ça peut être le réfrigérateur avec ce qu'on mange, ça peut être le four avec ce qu'on cuisine, mais l'intérêt de la sécurité, il est capital, et c'est l'un des grands enjeux, c'est-à-dire que tous les intervenants qui parlent aujourd'hui d'intelligence artificielle, parce que ces données, la plupart du temps, sont traitées par des algorithmes, donc par des intelligences artificielles qui ont besoin de puissance de calcul, tous ces intervenants-là mettent en avant en premier la sécurité et le fait que les données doivent être protégées. C'est une condition absolument sine qua non à ce que ces données puissent être traitées, parce que c'est en fait tout ça est une question de confiance entre les utilisateurs et les fabricants. Donc il y a des technologies qui se développent pour que les algorithmes qui jusque-là avaient besoin de puissance de calcul tellement forte qu'on ne pouvait le faire que en ligne, ce qu'on appelle dans le cloud, aujourd'hui puisse être traité directement dans les appareils, et que les données de santé que vous collectez avec votre montre ou votre matelas ou votre balance connectée ne sortent pas de votre smartphone. Ça fait partie des engagements qui sont pris de plus en plus par les fabricants.
Quelle garantie vous apportez à vos utilisateurs, Éric Carrel?
Alors déjà, on leur rappelle qu'ils sont propriétaires de leurs données de santé, c'est-à-dire que s'ils veulent les reprendre, et elles sont effacées de notre cloud, bien sûr. Et ensuite, il faut voir qu'au niveau européen, même maintenant au niveau américain aussi, il y a une armée de règles pour assurer cette sécurité, pour assurer cette confidentialité, pour assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi avec ces données, qui franchement doivent rassurer l'ensemble des utilisateurs. Moi, je ne crains absolument pas ce côté, ces données vont être utilisées contre moi, etc. Ce qu'on voit, nous, c'est plutôt le contraire. Aujourd'hui, quand vous parlez à des gens malades, ils nous disent « utilisez mes données pour faire avancer la science ». C'est-à-dire ce désir de participer à l'évolution de la science à travers l'intelligence artificielle, parce qu'on peut apprendre beaucoup, se développe énormément aujourd'hui parmi les gens malades.
L'un des objets les plus commercialisés, si je puis dire, c'est celui que vous portez à votre poignet, c'est la montre connectée, Julien Baldacchino. Question un peu plus personnelle, mais elle vous sert à surveiller réellement votre santé, votre état de santé, votre fatigue?
Alors, même quand on ne la regarde pas, en fait, précisément, alors moi, il se trouve que j'ai ma qualité de sommeil qui est affichée directement sur l'écran.
Et vous la surveillez tous les matins?
Ça, je le regarde, parce que je sais que je dors trop peu, donc je regarde la qualité de mes nuits.
Mais vous aussi.
Au-delà de ça, il y a une vraie alerte, c'est-à-dire que régulièrement, on reçoit des alertes qui disent « Ah ben là, sur les 10 derniers jours, votre fréquence cardiaque en marche a augmenté ». J'ai reçu ça il y a quelques jours, je me suis un peu alarmé, je me suis dit « Mince, ça a augmenté ». Puis je me suis assez vite rendu compte que j'étais à Las Vegas depuis 5 jours dans des conditions climatiques totalement différentes. différente. Et Las Vegas, c'est une ville où on marche beaucoup quand on ne veut pas prendre la voiture.
Décalage horaire.
Voilà. Donc ça servait d'explication. Mais régulièrement, même quand on ne regarde pas ces données, ces appareils-là sont aussi faits pour vous alerter et pour vous dire attention, il y a un changement de tendance, regardez-le. Donc il faut aussi apprendre à lire ces informations, à les décrypter comme n'importe quelles informations et à ne pas non plus les surinterpréter. C'est pas parce que vous avez une alerte que vous allez avoir un problème de santé imminent. Voilà, ce sont des choses à relativiser et qui servent aussi à se dire, on va aller voir un médecin.
Manifestement, Eric Carrel, Julien prend soin de sa santé, donc il regarde, il s'est équipé avec cet objet, mais est-ce qu'avec ces objets-là, on touche pas déjà des gens qui font attention à leur santé, alors que tout le grand volet prévention, il est plutôt sur des gens qui sont éloignés de la médecine, pour plein de raisons d'ailleurs. Ça peut être lié à leur éducation, ça peut être aussi lié à leurs moyens financiers aussi.
Alors, vous avez totalement raison, mais vous savez, dans toute évolution technologique, il faut d'abord apprendre quelque part. Et donc aujourd'hui, effectivement, on apprend avec ceux qui ont envie d'apprendre. Et demain, tout le travail que l'on fait à travers les rendez-vous qu'on a avec la Haute Autorité de Santé, avec la Caisse d'Assurance Maladie, etc., et les assureurs dans les autres pays, c'est justement de leur montrer l'efficacité de ce que peuvent avoir ces produits, ces algorithmes pour aider les patients et dire, ben voilà, il va falloir les donner gratuitement, les apporter aux patients pour les aider dans leur vie quotidienne.
Est-ce que vous négociez avec les services de santé pour que ces appareils soient pris en charge ?
Voilà,
c'est ça votre
exactement.
Votre objectif.
Alors, ça va prendre encore du temps parce que ben il faut convertir le système médical à l'intérêt de ce suivi.
Ah ben, mais ça coûte cher.
En fait, ça coûte assez peu cher par rapport à ce qu'est le traitement d'une maladie chronique. On ne se rend pas compte, c'est une maladie chronique aux États-Unis, c'est minimum 10 000 dollars par an, donc à peu près 10 000 euros. C'est beaucoup par rapport au prix de nos objets, ça n'a rien à voir.
Si on empêche qu'il y ait plus de malades, on fait des économies in fine, c'est ce que vous nous expliquez, Eric Carrel.
Vous faites des économies in fine et vous améliorez la santé des personnes.
Il nous reste une minute pour répondre à la question de Christian. Alors, je ne sais pas si c'est précisément votre domaine, je ne suis pas sûr que vous soyez spécialiste du diabète, Eric Carrel, mais Christian nous dit « Je suis diabétique depuis 57 ans, existe-t-il une pompe qui mesure le taux de glucose dans le sang et qui envoie directement la quantité d'insuline nécessaire ?» Est-ce qu'il y a progrès de ce point de vue-là ?
Je ne suis pas un spécialiste de ça, mais il y a effectivement des pompes qui sont reliées à des capteurs qui permettent effectivement, avec un algorithme, d'envoyer la bonne
quantité
d'insuline, ouais, à ces personnes-là. Et il y a une entreprise française, notamment, qui s'appelle Diabeloop, qui travaille là-dessus.
Ça fait partie des grands sujets, le diabète, avec notamment l'apnée du sommeil, qui sont vraiment pris en charge par énormément d'entreprises. Donc que ce type de solution arrive dans les mois, les années à venir, ne serait pas du tout étonnant que ce soit répandu au grand public.
Il y a eu beaucoup d'innovations autour du diabète et de la surveillance de la glycémie à l'occasion de ce salon de Las Vegas. Merci à tous les deux, Eric Carrel, la société Weavings, et merci également à Julien Baldacchino du service Culture Écran de France Inter, 13h46. Sur Inter. L'heure de notre feuilleton. À quoi ressemble le quotidien d'un sportif français expatrié ? Nous suivons cette semaine le basketteur Vincent Poirier, joueur de l'équipe de France et qui évolue dans l'un des meilleurs clubs d'Europe. C'est l'Anadolu Efes Istanbul en Turquie, un pays où le basket est une véritable passion. Et il nous a ouvert les portes avec, dans ce premier épisode, l'entraînement, c'est le quotidien des champions. Notre reporter Marie-Pierre Véro l'y retrouve, il découvre le pays.
Je suis jamais allé en vacances en Turquie, j'ai jamais passé plus d'un jour et demi en Turquie, j'ai pas vraiment eu le temps de sortir, on était là pour des matchs. Donc j'ai beaucoup parlé avec des potes à moi qui ont joué ici, ils m'ont tous dit beaucoup de bien. Voilà, j'avais hâte de découvrir ça et m'installer et de faire mon petit quotidien à Istanbul. Vincent Poirier, joueur de basket à l'Anadolu Efes, en équipe de France de basket aussi. Et voilà, poste de pivot. Déjà, c'était un nouveau challenge. J'avais envie de partir de Madrid pour certaines raisons. Et voilà, l'Anadolu m'offrait quand même des garanties, on va dire, et une nouvelle expérience. C'est vrai que la Turquie, ça a toujours été dans un coin de ma tête pour l'expérience que peuvent produire les fans. Et Istanbul est une grande ville, donc voilà, c'était important de trouver quand même une ville qui respire basket ou une atmosphère favorable à ça. Et c'est vrai que c'est des ambiances que j'aime bien. Et puis, il n'y a pas beaucoup de très bons championnats. Et on va dire que la Turquie est quand même l'un des top 3 en Europe. Donc, c'était important pour moi d'évoluer dans un championnat avec un haut niveau quand même. Je suis déjà venu jouer ici contre les équipes Fenerbahçe et Efes, donc je vois à peu près les ambiances qu'il y a ici. Il y a des très bonnes équipes et le sport prend une partie importante du quotidien en Turquie. C'est une culture différente, ça me change un peu de la France et de l'Espagne. Il va s'agir de s'imposer ici dans une nouvelle équipe.
D'autant que vous êtes pivot, donc c'est un poste de bagarre ça, sous le panier.
Ouais, voilà, moi j'ai le sale job de l'équipe en plus, donc je suis pas celui qui fait les plus de trucs... que les gens aiment, de shooter à 3 points, machin, mais c'est moi qui me tape tous les pick and roll, tous les rebonds, les bagarres, les grands qui sont plus grands que moi, les costauds. J'ai un peu le dirty job, mais voilà, on aime bien, hein, ça fait partie du travail, donc j'aurais pu rester à Madrid, rester dans mon confort et continuer, mais j'ai préféré voilà, me lancer un nouveau défi et voilà, on verra comment ça se passe. Je suis arrivé à peu près le 15 août et on a démarré la préparation le 28 août. Et on essaye d'éviter les moments de trafic ici, donc les entraînements sont pile poil là où il n'y a pas de trafic. Voilà, ça permet de répéter, d'avoir du temps de jeu ensemble, de se partager les ballons, d'avoir des réflexes, des automatismes. Les entraînements sont un peu longs en ce moment, mais ça fait partie du job. On va dire que les coachs aiment beaucoup l'entraînement, les joueurs un peu moins. Le travail de sportif en général, c'est pas un travail où on s'entraîne que 2 heures par jour, c'est 24 heures sur 24, faire attention à ce qu'on fait, faire attention à son corps. Il faut savoir trouver un juste milieu entre s'amuser, profiter et rester professionnel. Donc on essaye de bien manger, on essaye de bien dormir, c'est important. Avoir une routine aussi, ça habitue le corps à certaines choses. Et voilà, une routine d'entraînement, une routine de match. Éviter l'alcool, les trucs comme ça, qui sont pas bons pour les genoux. Je travaille avec une nutritionniste maintenant, mais bon, j'ai des bonnes bases. Pas de gâteau, pas de sucré, pas de soda. Je suis pas trop gâteau, je suis pas trop truc comme ça, donc c'est pas un effort surhumain de faire ça. Savoir avoir un juste milieu dans tout ce qu'on fait, c'est ça le plus important. Après, quand on est bien dans sa tête, et prendre soin de son corps, les massages, savoir s'entourer de gens compétents et qui s'y connaissent. Mais c'est un changement, c'était un changement de vie, quoi.
Une semaine dans la vie du basketteur Vincent Poirier. La suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le lundi à 13h51 aujourd'hui. Nous sommes avec notre linguiste spécialiste du français de nos régions, Mathieu Avanzi. Mathieu, alors que les premiers skippers du Vendée Globe vont boucler leur tour du monde dans les prochaines heures, vous nous parlez des mots de la mer. D'où vient le vocabulaire maritime ?
Excellente question, Jérôme. Eh bien, figurez-vous que le vocabulaire maritime a des origines qui sont fascinantes. Jusqu'au XVIe siècle, on distinguait deux langues de la mer, celle du Ponant, marquée par les influences germaniques, et celle du Levant, ancrée dans les cultures de la Méditerranée. Ce brassage linguistique, qui reflète l'histoire des échanges commerciaux de l'époque, permet surtout de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a autant de mots d'origine étrangère dans le vocabulaire des marins. Prenons quelques exemples. Le terme « amure », qui désigne un cordage, qui sert à fixer une voile du côté d'où vient le vent, c'est un emprunt à l'espagnol « amura ». « Frégate », ça vient de l'italien « fregata ». « Paquebot », c'est une prononciation adaptée de l'anglais, tenez-vous bien, « packet boat ». Eh oui, « foc », sinon c'est le nom de la voile triangulaire à l'avant d'un bateau, mais c'est un mot d'origine néerlandaise. Et enfin, que dire de « pétole », ce terme qui désigne l'absence totale de vent. À chaque fois que je l'entends, ça me fait rire, parce que « pétole », c'est un mot qui est formé sur le verbe provençal « péta », qui signifie « péter ». L'idée, c'est que quand il n'y a pas de vent, l'air est si calme qu'on pourrait entendre, eh bien, un « paix ». Belle preuve que, même sur les flots, la langue reste imagée et vivante.
Pétole que l'on ne souhaite pas, évidemment, au premier de la flotte du Vendée Globe. Alors, je reviens à ce vocabulaire, parfois étonnant, Mathieu Avanzi. Il varie selon nos régions ?
Absolument, Jérôme. Hein. Vous savez peut-être qu'un colin, le colin qu'on achète à Paris, ça s'appelle merlu dans le midi. Sinon, le bar et le loup d'un côté, la lotte et la baudroie de l'autre sont non seulement des noms différents pour un même poisson, une même espèce, mais les premiers mots sont employés dans le nord alors que les seconds sont employés dans le midi. C'est Henriette Walter qui raconte ça dans un ouvrage qui est passionnant, le français dans tous les sens. En fait, si on regarde bien, chaque région a son vocabulaire qui lui est propre. Je vais prendre un autre exemple. petit bateau pour la pêche. C'est une bête ou un pointu dans la région de Marseille. Et ça correspond pas tout à fait au picoteux en Normandie, ni même à ce qu'on appelle un couralin, un acon ou un pousse-pied sur le morceau de côte que sépare la Loire et la Gironde. Mais ce que je trouve encore plus remarquable, c'est que le lexique de la mer n'a pas eu le même impact sur le français d'une région à une autre. Prenons le verbe amarrer. En français standard, on l'utilise pour désigner l'action de fixer solidement un objet à un autre à l'aide d'une corde dans le but d'éviter qu'il se sépare. Mm-hmm. Le long des côtes de Normandie, de Bretagne et de Vendée, le verbe s'emploie plus largement pour désigner l'action d'attacher ou de lier deux objets, quel qu'il soit. Alors on va amarrer ses lacets, son vélo, son cheval à l'écurie, etc. Un dernier exemple, l'utilisation du mot vadrouille pour parler d'une serpillière en Normandie. Aujourd'hui, c'est un usage qui est désuet, mais qui remonte au XVIIe siècle. À l'époque, une vadrouille, ça désignait un tampon de laine fixé au bout d'un bâton pour nettoyer le pont d'un bateau.
Et qu'est-ce que ce vocabulaire dit de notre rapport à la mer ?
Eh bien, Jérôme, le vocabulaire de la mer illustre la rigueur et la créativité qu'il faut pour dompter les flots. Mais surtout, il nous rappelle que la mer, c'est une école d'humilité, que vous soyez un marin chevronné ou un novice. Alors, pour ceux qui suivent le Vendée Globe depuis leur salon, voilà une bonne excuse pour apprendre quelques expressions maritimes et pourquoi pas les glisser dans vos conversations. Après tout, on peut bien abattre les idées reçues ou virer de bord dans une discussion.
Merci Mathieu. Avons-y avec des jeux de mots dans C'est la France aujourd'hui. De C'est la France à C'est une chanson, votre invité Frédéric Pommier est un chanteur néerlandais. Il s'agit de Dick Engarn.
Il sera en concert ce mercredi sur la scène de l'Européen à Paris, et c'est la voix de Jacques Brel qu'il a souhaité que l'on écoute.
Jacques Brel a une cathédrale dans la voix, a les cloches dans sa voix, il a le paysage dans sa voix, Bruegel dans sa voix, tous les monstres, les œufs sur pattes de Jeronimus Bosch. Et c'est vraiment la Belgique éponge du monde entier, quelque chose de bâtard et de très pur, de rustique aussi. Et donc c'est un ami, je suis ami avec ça.
Vous vous sentez proche ?
Oui. J'ai rêvé d'être dans sa 404 avec Lino Ventura, à passer d'un concert à l'autre, bon, en faisant des restos, bon, un peu de la campagne, quoi. Et puis Brel, il me meut toujours. Il était tellement humain, tellement il pleurait sur scène. Et ça peut m'arriver aussi, oui.
De pleurer sur scène ?
Oui. D'émotion.
Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom ? Alonso Quijano. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijano, mais un preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde, écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi, Don Quixote, seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur.
Ce morceau, Frédéric, a pour titre L'homme de la Mancha, et c'est la chanson d'ouverture de la comédie musicale du même nom.
Une comédie musicale américaine adaptée par Jacques Brel à la fin des années 60, et dont la simplicité du dispositif a totalement estomaqué Dick Engarn. Il l'a vu à l'âge de 16 ans, et c'est, m'a-t-il dit, ce soir-là qu'est sans doute née chez lui l'envie de devenir artiste.
Il n'avait pas de cheval. C'était un chevalier avec un manche à balai. Un espèce d'escalier de 10 marches au milieu de la scène, un lit, et c'est tout. Comme quoi on peut faire beaucoup avec peu. Et j'étais scotché, parce qu'il y avait une présence théâtrale terrible.
On est en 1968.
C'est ça.
Théâtre de la Monnaie à Bruxelles.
Exactement. Et je l'ai vu, quand même, il faut lui faire honneur, avec Dario Moreno, qui était un petit Sancho délicieux, à côté du grand Brel, un peu maigre, un peu abîmé. On aurait dit un fruit, avec sa voix cuivrée. Et puis l'histoire est belle aussi, hein. Je veux dire, Don Quixote de la Mancha, c'est un chevalier à une époque où il n'y en avait plus. Donc voilà, j'ai eu un évanouissement, on va dire, d'admiration, enfin d'enchantement.
Mais c'est vraiment ce spectacle qui a déclenché votre envie de faire de la scène ?
Mais Brel a déclenché mon envie de faire du spectacle, oui. Parce que dans la pièce de théâtre, il y avait un chanteur, comme dans son chant, il y avait du théâtre.
Et moi, je suis Sancho, 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 son valet. J'en suis fier.
Regardez-moi, vous les dragons, les sorciers, les sorcières.
J'avais pas beaucoup de considération pour le spectacle. Franchement, les années pop ont quand même été des années un peu ridicules, peut-être pas d'un point de vue musique. Enfin, l'accoutrement, les pattes d'Ef, le look Labrador et tout ça. Mais au milieu de ces années pop, de voir un Brel éructant, écoutez-moi, pauvre monde, déjà rien que ça. C'est superbe, c'est beau.
Et est-ce qu'il vous arrive de penser à Brel quand vous vous chantez, quand vous êtes en concert ?
Ouais. Je pense être inspiré par Brel sans vraiment l'être. Enfin, je m'inspire de lui et de son théâtre.
Pourvu qu'elle mène à la gloire.
L'homme de la Mancha, Jacques Brel et Dario Moreno. C'était donc, Frédéric, le choix de Dick Angarn.
Dick Angarn qui sera en concert mercredi après-demain à l'Européen à Paris.
Merci Frédéric et à demain.